Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 13h30. 12h30, pardon, ouais, je m'emballe. Nous sommes aujourd'hui le quatrième dimanche du mois et nous accueillons notre motarde en or, Papate. Bonjour Papate, comment tu vas bien ?
Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va très très bien.
Impeccable. Papate va nous parler des femmes et de la moto. Hein, c'est ton sujet de prédilection, les femmes et la moto.
Bah, alors, écoute, c'est un beau sujet.
C'est vrai. Qu'elle soit réelle ou imaginaire.
Oui. On peut passer de la réalité à la fiction. Et en l'occurrence, on a eu un gros coup de cœur. Déjà, on vous en avait parlé du retour de Jollywood.
C'était quand
Je pense qu'il y a deux émissions en arrière.
Ah, déjà, d'accord. Jollywood.
Oui.
La pilote donc d'origine californienne, je crois. Hein, c'est ça.
Tout à fait ça.
Inventée. Enfin, imaginé par Jean Graton, voilà. En 76.
Alors, voilà, oui, ça fait partie d'une époque déjà lointaine, hein, puisqu'il y a 8 albums entre 76 et 80, et une grosse production qui s'est arrêtée. Et donc, 45 ans plus tard, Jollywood nous revient. Donc, ça aurait pu être la sortie d'une BD. Certes, il n'y en a plus beaucoup de BD moto en ce moment.
Je peux reprendre tes propos.
Vas-y.
Trouve que cette phrase est trop jolie. Donc, ce qui aurait pu se limiter à la sortie d'une BD motarde, dans une rareté de publication du genre actuel, semble être en fait le marqueur d'une évolution d'importance du monde motard. Hein ? Tu nous donnes envie là, tu
oui,
nous donnes l'eau à la bouche.
Et en fait, je ne fais que reprendre ce qui. Synthétiser, je dirais en quelque sorte, ce qui se passe actuellement et ce qu'on va essayer de vous partager. C'est-à-dire que c'est un vrai événement. Et il va y avoir des vitrines, de belles vitrines, pour le mettre en évidence.
De la com, tu
il
veux
y a
dire.
De la com, de partenariat, mais il y a
marketing.
Aussi des sacrés professionnels. qui sont passionnés par cette nouvelle saison de Jollywood. Et pour nos auditeurs qui ne repéreraient pas trop de quoi il s'agit, on va faire un petit retour en arrière quand même.
Oui.
Et grâce à nos amis...
Surtout à Balou qui est fan, je sais. Ouais. Salut Balou, comment tu vas bien ?
Ça va. Ouais.
Tu es fan de Julie.
Alors Jollywood, moi, ma passion, c'est la vitesse. C'est vrai que Jollywood, elle, c'était une amatrice de sport mécanique, mais dans tous les sens, et elle a notamment surtout du motocross, mais aussi de la vitesse, qui a fait qu'effectivement je me suis intéressé à Jollywood à l'époque.
Et t'as tous les albums.
J'ai découvert un album très très conséquent.
Ouais. Ok, bah tu vas nous en parler donc tout à l'heure. Et il y a également Yves. Yves aussi, toi, c'est dans le cadre d'une histoire avec le Paris-Dakar, c'est ça?
Bah exactement, oui. C'est en suivant le Paris-Dakar cette fois-ci. Et puis, j'ai vu un très beau documentaire sur Martine de Cortanze. Et après, en cherchant un peu, vu que j'étais au courant un petit peu du lancement de Jollywood, et puis je tombe sur l'album de, justement, Michel Vaillant, Le Dakar, où ce personnage qui a existé se retrouve, et où déjà, certaines petites histoires sont issues du livre qu'elle avait écrit ensuite.
D'accord. Tu vas aussi nous parler d'un bouquin qui vient, enfin c'est une BD je crois qui vient de sortir, Les Brels de la rédaction.
Exactement, oui. Donc on va parler un peu un petit bouquin de BD qui change un petit peu. Et donc c'est Les Brels de la rédaction, ça raconte un peu les déboires et c'est de façon amusante aussi, très humoristique, d'un duo de journalistes dans une rédaction de magazine moto.
Ok. On aura également une femme, une pilote et journaliste, Alison Aigrin, voilà, qu'on aura au téléphone tout à l'heure et qui, voilà, vous verrez, elle fait des choses formidables. C'est une passionnée, passionnante.
On vous l'avait présentée déjà à l'antenne avec son excellent Talon et Guidon, que je recommande à toutes et à tous.
Ok. Et on va finir le tour de table en citant à la programmation et à la technique Laurent.
Thirtieth 1955. Tension in the dugout, buzzing like a beehive. Yankee Stadium went wild when Jackie won the race. I nearly lost my mind when the ump called him safe. He was fearless like Daniel, Daniel in the lion's den, taking on an evil system with the courage of 10 men. The times he caught a hateful look, keeping his cool while his inside shook. Seen by a whole nation, all eyes on the game, not losing his concentration when he was called that ugly name. I felt joy,
joy.
Every bone, watching Jackie stealing home. Of all the good times I remember, growing up in the land of the free, there's one etched in my soul, a part of me. I felt joy,
joy
like a boy at Christmas in every bone, watching Jackie stealing home, watching Jackie stealing home. You can't count the time he caught a hateful look, keeping his cool while his inside shook. Seen by a whole nation, all eyes on the game, keeping his concentration when he was called that ugly name. I felt joy,
joy,
pure joy in every bone.
Joy.
I felt joy in my heart, yeah, in every bone, watching Jackie Robinson stealing home. Jackie stealing home.
Sympa le dimanche matin pour se réveiller, hein, une petite musique comme ça, bien, bien sympathique. Donc vous êtes bien sur Radio Campus, Kikinkou, le magazine de la moto, et nous sommes avec Papat, notre motarde en or, qui va nous reparler de Julie Wood.
Oui, Julie Wood, et merci à Jean Graton.
Le papa de Michel Vaillant.
Et puis de Julie Wood, parce que justement, il connaissait le succès. C'était un dessinateur qui s'est une grande proportion autodidacte au départ, qui a eu des conditions, on va dire, de démarrage dans la vie pas évidentes, et qui, à force de volonté et de travail, là aussi, a percé dans le milieu de la bande dessinée. Et donc, Michel Vaillant, ça a été un grand succès, ça demeure une référence. Et le fait qu'il ait eu l'idée, en 76, c'est quand même, on repart quand même pas mal d'années en arrière, hein, vers ça peut être 50 ans. Eh bien, de créer une héroïne motarde, ouais. mais avec, je dirais, une volonté, une liberté d'action, ouais. et puis des projets. Et donc, elle avait des rêves qu'on les motardes on pourrait avoir même actuellement. donc, avec le championnat du monde, etc. Voilà. Je trouve que c'est bien aussi de revenir sur ces années-là, sur les années...
aux origines.
Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, on va laisser Balou nous en parler.
Alors, Julie Wood, elle apparaît effectivement en 76. En fait, le but de Julie Wood, c'est de gagner surtout les 500 miles d'Indianapolis. Elle rêve de gagner les 500 miles d'Indianapolis. Et elle est passionnée par tout ce qui se passe en motocycliste. Elle est élevée par un oncle qui s'appelle Chris. Elle a deux frangins qui sont aussi des passionnés de sport mécanique. Et elle continue dans les 7 ou 8 volumes. Elle commence alors, Julie Wood commence par, en 76, par, on présente en gros qui est Julie Wood avec ses passions et tout ça. Ensuite, ça se développe toujours en 76 avec une BD sur le motocross. Et ensuite, elle passe au 4x4. En fait, c'est une fille qui est passionnée par la mécanique. Ensuite, elle passe à la voiture. Elle passe avec des balades de motards un petit peu hard de l'époque. Et ensuite, elle passe en sidecar sur Daytona, elle était en vitesse. Et ensuite, le bol d'or. Le bol d'or, c'est la BD que j'ai parce que moi, je suis un passionné de vitesse. Et donc, j'ai gardé ce bol d'or. Ce qui est amusant, c'est que avant de refaire cette deuxième BD, entre deux, il y a eu quand même un film, Diane Kruger, qui a repris le personnage de Julie Wood. La dame qui a Jean Graton a été inspiré par une dame qui s'appelle Dominique Biaran, qui était une urgentiste.
Et à l'époque, elle avait 17 ans quand elle l'a inspiré.
Tout à fait. Alors la BD, moi, ce qui m'a frappé dans cette BD du Bol d'Or. Jean Graton était un perfectionniste. C'est-à-dire qu'en fait, avant de faire les BD, il allait sur les circuits, il scrutait les motos, il scrutait les moteurs. Et c'était important pour lui d'avoir le respect de la mécanique.
Le détail, quoi.
Et le détail. C'est vraiment impressionnant.
C'était un motard, en fait
Et il avait été, était passionné de sport mécanique. Il avait été élevé dans ce milieu-là. Il a perdu son père alors qu'il était très jeune. Mais dans les années partagées avec son père, il dit qu'il a été élevé dans l'huile de ricin. D'accord. Et qu'il avait vraiment coup de cœur pour la moto.
Okay. Alors il a par exemple dans ce boulder on voit le circuit du Castellet avec un descriptif hyper précis quoi. C'est vraiment impressionnant. En début de bouquin on se dit oula, c'est pas une BD comme on voit habituellement. Ensuite il y a dans ce bouquin le page 9 il y a un descriptif de la Elf, ouais. la fameuse moto Elf, mais vraiment complètement désossé et avec le descriptif complet. Et ce qui est rigolo, c'est le petit clin d'œil. En fait, il y a Rougerie qui lui précise qu'elle ne plonge pas de par sa conception parce que c'était à la fois un monobras avant et on pouvait pas, la fourche ne s'enfonçait pas sur cette moto. J'étais étonné aussi de voir le nombre, et on voit que Jean Graton était un passionné, le nom des pilotes. Il y avait Christian Léon, Jean-Claude Chemarin, il y avait Collet, Pierce, des Américains, Saron et Léon. Baldé, Moineau, Fontan, Bertin, tout ça on a connu quoi. C'est des pilotes de l'époque. On voit en dessin Huguet en vert à l'époque qui courait sur Kawa. Il y a des noms que je me rappelle même pas, Chaltan et Bussard. D'après vous, des pilotes belges qui couraient sur Honda, je me rappelle pas. Les dessins des motos Japoto, Yamaha et Ducati sont hyper fidèles. C'est vraiment impressionnant. Et le seul truc, c'est le copilote qui court avec Julie Wood. Jacques Luc, qui a fini cinquième. J'ai regardé un petit peu à l'époque. A priori, ça correspond à un pilote qui s'appelait Soulas, qui courait avec Offenstadt. Voilà.
Et il s'est inspiré. Quoi.
Le côté rigolo, c'est de voir aussi Jean-Pierre Chapelle, qui était le commentateur d'automoto, qui est dans la BD. Ça, c'est vraiment rigolo. Voilà. Bon, maintenant les femmes en moto, oui, Julie Wood, oui, mais à l'époque il y avait quand même déjà pas mal. Bon, on n'en parlait pas beaucoup, mais il y avait déjà pas mal de femmes qui avaient couru. Par exemple, en 500 au Tourist Trophy 1962, il y avait une dame qui avait fini 22e, hein, qui était une Anglaise. Donc on n'en parlait pas, mais il y avait quand même pas mal de femmes sur le sur le sur la compétition.
Ok. Et donc tu l'as encore cette BD, ouais, j'imagine.
Ah oui, je l'ai.
Tu nous l'as ramené.
Ah bah j'ai ramené ça et j'ai ramené aussi une BD de Michel Vaillant, parce qu'en fait Julie Wood va poursuivre sa carrière en se retrouvant dans la BD de Michel Vaillant et en devenant la petite amie de Warson, qui est le meilleur copain de Michel Vaillant. Donc c'est assez rigolo, ce clin d'œil, et c'est vraiment j'ai même ramené une BD de Michel Vaillant avec des motos. Qu'on ne peut pas voir forcément parce qu'on est à la radio.
Je ne sais pas si on retrouve ça dans le commerce, c'est encore disponible.
Exactement, oui, ouais. Ça a été réédité.
Ok, ok.
Ouais, parce que la BD que j'ai est de 68.
Le Dakar, je l'ai racheté en réédition et ça a été réédité. Bon, okay. Il y a peut-être des numéros qui sont pas dispo, hein, mais tu trouves facilement, quoi.
Ok, on va passer un petit morceau de musique et puis après on ira faire un tour au Dakar avec Yves. Ok, Yves. Ok. À tout de suite. We'll be right back. Ça, c'est du rock'n'roll sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto. Et nous sommes avec Papat qui nous parle de la moto et des femmes, n'est-ce pas? Tu vas mieux là? T'as plus mal à la gorge, Papat? Ça va?
Ça va? Voilà. Une petite interruption du son.
Et je me permets de donner la parole à notre ami lecteur Yves qui va faire le lien avec Julie Wood et le Paris-Dakar.
Exactement. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction de l'émission, en fin de compte, c'est en suivant un reportage de Paris-Dakar et un reportage sur Martine de Cortanze, qui a participé au premier Paris-Dakar avec tout un commandant de filles françaises. Elles étaient 6, toutes plus jolies les unes que les autres, et dont certaines vont refaire des Paris-Dakar et faire de très bonnes places, hein, 10e, 11e, notamment au général en moto. Et donc c'est en voyant ça que je gratte un petit peu Martine de Cortanze et je tombe sur l'album Paris-Dakar de Jean Graton, c'est le cas de le dire.
Tu grattes.
Désolé. Et puis je regarde cet album et c'est là où Julie Wood et Martine de Cortanze font le Dakar. Et dans cet album, donc c'est vraiment très détaillé, sont les premiers Dakar, et tout de suite Jean Graton va décrire l'organisation du Paris-Dakar, qui est quelque chose de complètement nouveau, qui est complètement la nouvelle aventure quoi, à vivre. Et il décrit toute l'organisation, c'est très détaillé. On voit les pilotes, on retrouve Jacques X qui a fait le Paris-Dakar avec Claude Brasseur. On voit donc tous les grands pilotes français de l'époque, hein, notamment Hubert, Auriol, Michel, Méril et puis Cyril Neveu avec leur moto qui est bon, elles sont vraiment dessinées, c'est très fidèle, ça je suis d'accord, c'est vraiment ça. Et donc il y a toute cette histoire de ce Paris-Dakar 78, 79 ou 80 qui fera le Paris-Alger Gao-Dakar, donc vraiment la grande aventure là avec les passages de gué, les choses comme ça qui est décrite dans l'album. Alors c'est aussi Martine de Cortanze qui a fait le Dakar en 79, donc elles étaient 6, Martine de Cortanze, Christine Martin, Marie-Dominique Cousin, Marie Herthaud, Corinne Copenhague et Pascal Gury. Et en fin de compte, il y avait un article de Paris Match qui couvrait l'événement, et elles mettaient en commun l'assistance aussi en même temps. Donc Martine de Cortanze a réussi à faire une très bonne place. Son mari, qui est caméraman, apparaît aussi dans l'album. Il avait fait un reportage dessus. Elle avait publié un livre, ce qui donnait énormément de renseignements à Jean Graton pour faire son bouquin. Et dans le bouquin, on retrouve des anecdotes, des faits de course qui se sont passés et qui sont décrits dans le livre de Martine.
C'est ça qui faisait la force de Jean Graton. C'est ça qui se fait la force de Graton. Il rentre vraiment dans le détail jusqu'au bout. Oui. Mais jusqu'au bout, aussi bien mécaniquement qu'au niveau des pilotes et tout ça. C'est vraiment la patte de Jean Graton.
C'est super documenté. Ouais.
Ouais. Oui. Et puis sur le. On voit bien sûr. Bon, c'était apparemment un grand ami de Jacques X. Et dans tous les albums de Michel Vaillant, on trouve la page de couverture, la seconde de couverture, avec le portrait de Jacques X aussi. Donc voilà. Donc ça, c'était bien écrit. De fait, là. Après, je me suis intéressé aux femmes dans le Paris-Dakar, parce que, bon, suivant le Paris-Dakar, ben, je vois cette année, il n'y avait qu'une seule femme qui figure vraiment. Bon, elle a couru, c'est Sandra Gomez, Cantero, qui est arrivée donc. Elle est arrivée 43e au Scratch sur Fantic Motor. Toutes les motos sont arrivées, et c'était la seule femme cette année. Donc forcément, elle gagne arrivée au bout. Donc c'est elle qui gagne le challenge féminin. Et donc j'ai suivi un petit peu les femmes pilotes moto du Dakar. Et on retrouve un petit peu tous les profils que tu décris, Balou. Beaucoup de filles de famille de fans de sport mécanique. Elles commencent beaucoup avec des compétitions, certaines très jeunes, hein, comme... Sans qui a commencé la moto, enfin à 2 ans son père la mettait sur sa moto, sur son siège vélo. Elle commence la compétition à 7 ans, elle fait des compétitions à 12 ans, 14 ans elle gagne ses premières courses contre des garçons en 80 cm cube. Elle fera 11 participations au Dakar, c'est elle qui fera la meilleure place au scratch de tous les temps, vu qu'elle va arriver 9e en 2015. Et puis elle continue maintenant, là elle était partenaire, donc elle roulait cette année sur Dacia, elle a fini la course, et donc elle était encore en compétition. Mmh. Mais il y en a qui, beaucoup comme les pilotes masculins, qui commencent par la moto et qui continuent après avec la voiture, voire même les poids lourds, quoi. Mmh. Donc tu as Elisabeth Jacinto qui est, bon, elle a commencé la moto, elle a fait donc deux participations au Dakar avec une 49e place aussi en gagnant le classement féminin, et puis en 2000, et on la retrouve après, elle va gagner l'African Eco-Race avec un camion, avec un MAN, quoi. Et elle continue après, elle, sur le camion. Il y a aussi une personne dont on avait déjà parlé quand on a parlé du livre, donc du sable plein les poches, hein, donc qui est aussi Katia, Kleinschmitz aussi, qui a fait pas mal de Dakar, qui avait terminé 22e aussi, qui a gagné aussi, elle a roulé sur BMW KTM. Alors elle, c'est une fille, c'est une femme de tête, elle est ingénieure déjà chez BMW quand elle commence la compétition. Et elle va continuer après en voiture, et donc elle va gagner pas mal de courses de rallye raid en voiture aussi. Et bon, et là maintenant, bon, elle est un peu retirée des brouettes, hein, mais elle a gagné le trophée Andros, des choses comme ça. Donc c'est des filles qui touchent un peu à tout. Et ce qui est bizarre quand même, c'est que de voir de tout le long du Dakar, il y a des moments, il y en a quelques-unes qui courent ensemble, il y a des moments où il y a plus de femmes, et il y a des moments vraiment des creux où il y a beaucoup moins de femmes qui font le Dakar, mais il n'y en a jamais eu beaucoup qui ont fait le Dakar. Mmh. Voilà. Donc en 2005, si on regarde les choses, le plus grand nombre de participations, c'est Sands avec 11 participations, et puis la meilleure place, c'est elle qui l'a eu aussi, 9e, et sinon vous voyez aussi des places de 10, 11e, 15e. Et après, les meilleures féminines se retrouvent plutôt dans les 40e en arrivant, sauf exception comme Sens, comme Myriam Paul aussi, hein, qui a gagné, qui a fait 10 Paris-Dakar. Alors Myriam Paul, elle n'a pas pu courir cette année à cause du oui. Covid. Hein, mais bon, elle a fait ça, et il y en a même qui pour avoir des guidons, à mon avis, et pour pouvoir se démarquer, vont même aller sur les premiers GP moto électriques, quoi. Donc, parce que les premiers GP moto électriques manquent de pilotes, et ben du coup, ben, les femmes peuvent se... Elles peuvent courir avec les hommes en même temps, quoi. Voilà.
Maria Herrera qui courait en moto. Ouais. Ouais.
Exactement.
Ok, merci Yves. Je rappelle le nom de la BD, c'est tout simplement Paris-Dakar, hein, c'est ça ?
Oui.
De Jean Graton.
Donc ce qui est bien aussi, c'est marrant, c'est se de voir l'évolution. Il faudra voir un peu l'évolution des mœurs aussi au niveau du Paris-Dakar, parce qu'on voit un petit peu la drague. C'est là que donc Julie Wood va rencontrer son fiancé. Et c'est un peu daté, point de vue de la drague et point de vue du comportement masculin vis-à-vis des femmes. Quoi.
Il lui tape sur le cul, c'est ça.
Mais Yves a l'air d'être un spécialiste en la matière. Et
ça se verra aussi sur la deuxième BD. Hein. Dans la deuxième BD aussi, on parle aussi des femmes. Bon, c'est bien aussi, c'est que Jean Graton parle non seulement de Julie Wood au niveau du Paris-Dakar, mais parle tout de suite aussi des vraies pilotes féminines qui sont dans le Paris-Dakar.
Ouais. Moi, je dirais que, en tous les cas, vous écoutez parler des compétitrices, de personnages fictifs. Je vous remercie pour votre grand
respect. Oui, nous sommes les ambassadeurs, quelque part. C'est un peu.
Non, mais vous êtes des motards, et souvent on a des a priori sur le monde motard. Et moi, j'ai toujours trouvé beaucoup de respect.
On est des gens comme tout le monde. Hein,
il y a une grosse évolution. Moi, ça m'a fait vachement plaisir maintenant qu'on en arrive à avoir un championnat du monde féminin.
Voilà, c'est vraiment important.
Par rapport à l'époque où je suis né, c'était vraiment. On était dans les étoiles. Mais là, on y arrive, quoi. C'est impressionnant.
Je dirais oui et non. Moi, j'ai ma sœur qui a fait de la moto. On a traversé la France en moto tous les deux, quoi. Et elle avait sa moto et j'avais ma moto. Donc, je suis une famille de moto. Et mon père a toujours dit, les filles, c'est comme les garçons, elles ont droit à une moto. Les années 80, quoi. Bah, 79, tu vois, les années 80, voilà. Les filles faisaient de la moto.
On est tous persuadés. On va passer un petit morceau de musique, hein ? Et on revient à notre Julie Wood juste après. Vous êtes bien sur Radio Campus, Kikinkou, le magazine de la moto. On entend des motos qui passent derrière. Nous sommes avec Papate qui va nous parler de la nouvelle Julie Wood parce qu'il y a un nouvel album qui s'appelle Mortel Rodeo qui sort le 14 février, c'est ça ?
Voilà, un retour fortement annoncé pour une belle héroïne qui est née sous le crayon de Jean Graton en 76. Et donc on se dit c'est mais un sacré pari pour réussir à retrouver Julie Wood avec tout son passé quand même, et qui va repartir dans de nouvelles aventures, mais dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'elle va avoir... Elle n'aura pas pris une ride.
Elle
n'aura pas vieilli. Parce que oui, 50 ans plus tard, presque 50 ans plus tard, je pense que ça donne à rêver
à toutes les retraités. Elle s'est un peu développée quand même, hein, je crois. Elle a fait du sport ou...
Un peu de
chirurgie aussi, esthétique, non ?
Disons que elle reste toujours très belle. Elle reste toujours avec les mêmes valeurs de liberté, de courage.
Féministe, on pourrait dire.
Disons que Jean Graton était féministe
avant l'heure.
Avant l'heure, voilà. Et
c'est plus Jean Graton qui dessine.
Non. Alors justement, il y a une nouvelle équipe et c'est trois albums qui sont annoncés. C'est-à-dire que il y aura ces trois albums. On vous en avait parlé pour justement évoquer le financement participatif qui était à l'époque parti, qui a été une grande réussite. Et ces trois albums, ils vont s'étaler sur... ils vont paraître sur 3 années. Hein. Et donc, et après, ce sera suivant le succès que la série va avoir auprès du public. Donc, au départ de tout ça, il y avait les studios Jean Graton, donc, un arrêt donc des aventures propres de Julie, comme on l'a dit, en 80. Mais Philippe, un des fils de Jean Graton qui travaille avec son père, a toujours dit qu'il avait à cœur de continuer à faire vivre cette héroïne. Et donc, il y a eu la vente de la société Graton aux éditions Dupuis, et il y a eu une équipe qui est intervenue avec beaucoup d'efficacité, puisque il y a eu Michel Vaillant, hein, saison 2, ça a été aussi une réussite. Donc c'est Jean-Louis Daugé qui est directeur de la marque et du développement de Michel Vaillant et de Julie Wood qui est reparti pour mettre en place toute cette création. Pour Julie, ça a été aussi par la présence d'un scénariste, Philippe Pélaz, qui est auteur de scénarios de plus d'une trentaine d'albums, qui est en route plein de publications en même temps, qui a une très grande culture et qui s'investit pleinement face au personnage de Julie. D'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée de ce reboot. Et donc, il a replongé dans les albums passés et il est parti aussi à s'inspirer d'une jeune fille, en tous les cas pour le caractère. Il dit s'être inspiré du caractère bien trempé, en l'occurrence de sa fille Léna. Et donc, comme je l'ai dit, il reprend le contexte familial de Julie, son origine américaine, puisque ça va repartir des États-Unis. Et donc, dans le premier tome, on sait qu'elle va rouler en Husqvarna. Mais au quotidien, elle aura une autre moto. Celle-là, elle va s'en servir tous les jours. Mais ça, on va en parler tout à l'heure.
Mais il ne faut pas spoiler.
Parce que, voilà, il y a... Philippe Pélaz va ajouter une intrigue policière. Il va y avoir du suspense. Les parents de Julie ont disparu dans un accident de voiture. Et il a l'idée de commencer à mettre un petit truc là. Des policiers interviennent. Ça pourrait ne pas être un accident. Ou qu'est-ce qu'il en est ?
Oui.
Donc ça va constituer le suspense. Alors, pour te répondre à ta question sur la plastique de Julie, eh bien, c'est Claudio Stassi, qui est aussi un super dessinateur, vraiment, on ferait plaisir à notre ami Fred Véreux, parce que Claudio Sassi dit qu'il est, il s'est inspiré aussi de Möbius, et je sais que c'est un dessinateur que Fred adore. Donc, il adore dessiner les femmes et les motos.
Ah bah ça tombe bien, voilà, ça tombe bien.
Parce que c'est lui-même un motard. Et donc, il est sensible à ce qui était très, très important aussi chez Jean Graton, c'est-à-dire à essayer de restituer aux plus fidèles les machines. Et il le dit bien dans ses interviews, que ce n'est pas une chose aisée à faire, parce qu'il y a énormément à dessiner.
De détails.
Voilà. Donc, cette Julie, elle a donc, comme je disais, des valeurs qui ne faiblissent pas, et surtout un but, c'est de progresser hein, dans toutes les formes de compétition de moto, et en particulier effectivement devenir professionnelle et gagner le championnat du monde.
Donc et là en Husqvarna, c'est parce qu'elle va faire le enduro.
Non, elle va faire du flat track, elle va donc
c'est vrai, on est aux États-Unis.
Voilà. Donc elle va bien sûr rouler sur différentes machines, puisqu'elle va s'exercer sans doute à différentes disciplines, mais c'est la piste qui va l'amener sans aucun doute aussi, je peux me tromper, mais je pense que c'est dans le projet, à nouveau en Europe. Donc c'est une série qui est portée par des super professionnels. Hein. Bon, c'est vrai qu'on on cite plus rarement celui qui fait le storyboard ou bien pour les couleurs, mais là toute l'équipe est au complet avec Marc Bourgne et Florent Daniel. Et pour présenter cette héroïne qui s'annonce très belle et très charismatique devrait correspondre à ce qu'attendent les motardes, il va y avoir des vitrines. Donc c'est annoncé, mais j'ai pas tellement de détails pour le salon rétromobile, mais on pourra en parler ou on pourra se renseigner sur le salon rétromobile sur le stand de Michel Vaillant.
Il y aura un stand de Michel Vaillant au salon rétromobile.
Ouais.
Donc il y aura une présentation ou
disons que en tous les cas
de la BD.
Je pense qu'il y aura des choses qui seront déjà présentes.
Peut-être des affiches ou
voilà. En tous les cas, c'est annoncé comme ça, en disant voilà la première vitrine, aller sur le stand Michel Vaillant.
C'est en janvier. C'est...
Non, c'est le week-end, deuxième week-end de février, étant donné que le 1er février, c'est dimanche prochain. Donc, la semaine suivante, c'est le salon rétromobile. Et après, on a le salon du
de Lyon.
De Lyon, juste pour la sortie de
la BD.
De la BD. Je vous rappelle que le 14 février, c'est la Saint-Valentin.
Ah bah ça tombe bien.
Je ne sais pas si c'est toujours fêté, mais ça peut être une idée de cadeau. Ça peut être une idée de cadeau.
Voilà, donc
bon, c'est pas très cher.
Tu es en train de dire à nos auditeurs,
c'est plein d'attention,
à nos auditrices, de pouvoir acheter cette BD pour leur amoureux.
Bah oui, parce que maintenant, je pense que les filles peuvent tout à fait supporter que leur copain fantasme sur de belles blondes.
Je te parlais des motos qui sont dessinées dans la BD.
Bon, maintenant, la plastique en 80, elle avait 16 ans, quoi. Elle avait 16 plus 4, 20 ans. Maintenant,
elle a 18 ans. Elle repart à l'âge de 18 ans.
Ah, elle a grandi quand même, alors.
Et puis, l'intelligence de Jean Graton, c'est quand même d'avoir laissé Julie dans l'univers. Elle n'a jamais complètement disparu. Elle a disparu par rapport à sa BD.
Ouais.
Mais elle est présente dans la BD Michel Vaillant. Donc elle n'a jamais totalement disparu. Comme si c'était voulu qu'un jour elle réapparaisse.
Ouais, elle est très attachante comme héroïne.
Oui.
Donc salon du Deux-Roues.
Il y a Yannis qui veut dire un truc.
Moi, je l'ai ajouté quelque chose.
Oui.
Elle vante les qualités des jolies blondes parce que Patricia est une jolie blonde.
Ah, elle est trop gentille, mon copain. Heureusement qu'on est à la radio. Heureusement.
Et donc, au Salon de Lyon, tu auras la BD carrément.
Ouais,
Et voilà. On pourra peut-être avoir des dédicaces.
Oui, il y a une opération. Alors, ils sont très généreux. Pour ceux qui ont adhéré donc à cette prévente des albums, il y a eu des albums dédicacés, il y a eu des cadeaux. Donc, les personnes ont été vraiment gâtées. On attend tous notre notre BD.
T'as eu ton cadeau, toi ?
Ah bah moi, je l'ai fait tout de suite. Et c'était aussi très accessible. Je peux dire que c'était à la portée, je pense, de beaucoup de porte-monnaie. Donc là, il y aura une opération dédicace de 3 jours avec le dessinateur Claudio Stassi, qui est très ouvert au dialogue et qui attend les retours des motards, qui est très heureux de pouvoir justement parler avec...
Voilà. Pour faire évoluer éventuellement les prochains albums qui sont...
Oui, et puis curieux des réactions du public. Mais je trouve que cette promo, elle est très chaleureuse et très sympa. Parce qu'on pourrait dire, ouais, bah, c'est du commerce. Y a... Je trouve que les... Moi, par exemple, j'ai contacté Philippe Pélaz. On l'aura peut-être pour le tome 2, parce que là, il y avait un calendrier trop chargé, mais vraiment, je dirais, une disponibilité et une gentillesse impressionnante. Et donc, il y a une opération de promo aussi, parce que je dois rendre remercier les magazines Moto Heroes qui a fait d'excellents articles sur les 2 derniers numéros. Et donc, là... Dans ces magazines, il y avait la possibilité de jouer en flashant le QR code qui était proposé. Et donc, il y avait la possibilité de gagner l'intégrale des anciens albums. Et là, c'est aussi des dos qui sont proposés.
Tu as joué, toi ?
Non.
Non,
non.
C'était dans le Moto Hero du 13 décembre, je crois. C'est ça, hein,
Le dernier. Et le précédent, tu remontes 3 mois avant, voilà.
On peut encore jouer, tu crois ?
Dans le dernier, oui, je pense qu'il n'y a aucun problème pour jouer, parce qu'il y aura un tirage au sort sur le stand de Moto Hero.
D'accord.
Et il faut bien parler aussi de la moto, mais on en donnera beaucoup plus de détails tout à l'heure, parce qu'on va faire quand même une petite pause musicale. Oui. Mais donc, il faudra se rendre sur le stand BMW, Motorrad, parce que justement, la moto au quotidien de Julie, c'est une R12. Et
non, pas la voiture. Hein.
Et il y a eu une.
Ça, c'est vieux, ça.
Et il y a eu un partenariat avec BMW. Déjà, pour Michel Vaillant, il y avait aussi un partenariat, mais alors là, pour Julie, je pense que les amateurs de belles choses vont vraiment être gâtés. Donc, on se donne rendez-vous juste après la petite pause musicale.
Pour nous parler de la R12, la moto, hein, la BMW
voilà.
R12. Ok, à tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Campus, Kikinkou, le magazine de la moto. J'entends la scène. D'ailleurs, je sens, c'est une bulle taco à l'huile de ricin. Eh ouais, ça se sent, ouais. Alors, papate, cette Julie Wood roule dans la BD sur une moto qui a été réalisée en partenariat avec BM France, hein, et un préparateur. Donc, cette moto existe vraiment, en fait. On va la voir en vrai, elle sera exposée au Salon de Lyon, d'ailleurs.
Il n'y a pas énormément d'exemplaires. Ça sera une moto collector. Il y aura 15 exemplaires numérotés.
En France ?
En France. Et 5 pour la Belgique.
Belgique francophone, alors, parce que...
Non. Benelux.
C'était correct.
Benelux. Et donc...
Donc, c'est un préparateur, c'est ça ?
Voilà, oui, c'est Stéphane Brun qui avait déjà été sollicité.
Pour Michel Vaillant.
Voilà, pour mettre en valeur donc l'image de Julie. Et il a repris les couleurs du drapeau américain.
Alors, je sais pas si. Alors, on n'a que des photos hein, pour l'instant. Mais je sais pas si tu as vu, mais bien sûr, il y a le drapeau américain, mais c'est du métal, je sais pas le dire, métal folk, tu vois. Il y a des petites paillettes dedans. Comme on faisait dans les années 76 en Californie, tu sais, sur les shops. C'est un petit clin d'œil, j'ai trouvé. Alors, en vrai, avec le soleil, ça devrait être magnifique comme peinture, le rendu, quoi.
Ouais. Et tout a été soigné pour effectivement que ce soit une très très belle moto. Le casque est aussi assorti à la moto. Et le BMW. Le projet donc de valoriser cette machine pour montrer comme elle peut être plutôt destinée aux femmes.
Oui, vas-y.
Voilà, aux femmes déjà par la hauteur de selle, mais que justement il y a toute une clientèle féminine qui est en attente de machines qui leur correspondent, et donc effectivement l'opportunité fait que cette machine elle va être associée à une femme.
Alors c'est un bon coup de pub pour BM, hein, parce que effectivement c'est la R12, hein, donc la R12 ils l'ont imaginé. Ben, c'est un custom, enfin ils appellent ça un custom. La première fois que BM il a sorti un custom, c'était un flop total. C'était la 1200C. D'ailleurs la Mich en a eu une, je sais pas si vous vous souvenez.
Si la moto de James Bond.
Voilà. Franchement, le cascadeur français. Là.
D'ailleurs, on se demande comment il fait la cascade avec cette moto-là.
C'était vraiment pas la bécane pour faire ça. Hein. Et ben, ça a été un flop total, en fait. Ça n'a pas du tout marché. Donc, quand BM a dit qu'il allait ressortir un custom, tout le monde s'est dit faites gaffe, les gars. Mais alors, ils avaient déjà commencé par la R18. Vous voyez la R18, le truc énorme, gigantesque, avec un gros bicylindre tout chromé qui sort de partout. Et alors, on en voit quand même, hein, ça se vend, ça se vend. Ouais. Alors au début, forcément, c'était très cher. Ils ont vachement fait de promos dessus, donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à en vendre. Mais bon, le truc, franchement, il est énorme. Je l'ai essayé, hein, je peux te dire, franchement, ça fait peur. Comme la Rocket 3, les premières Rocket 3 avec un réservoir monstrueux, ça fait peur. Et du coup, ils ont imaginé faire un custom beaucoup plus accessible avec le 1200, hein, et qui est effectivement donc plus bas et donc accessible pour la jante féminine. Alors, il y en a plein de constructeurs hein, qui veulent séduire la jante féminine. Harley, par exemple, avec ses anciens Sportster, en tout cas, séduisait la jante féminine en leur proposant des ateliers spéciaux pour les femmes, par exemple. Si tu vas à Paris-Bastille, ils te faisaient, alors je sais plus, c'était toutes les semaines, je crois, ou des ateliers, soit mécaniques, soit prise de guidon, enfin voilà, etc., quoi. Mais alors, quand tu dis custom, par exemple, Balou, ferme les yeux, pense à un custom, c'est quoi ? C'est quelque chose avec une longue fourche, un angle de colonne très ouvert, une selle à deux étages.
Longue fourche, pour moi, c'est un chopper.
C'est quoi un custom ? C'est quoi un custom ?
Ah, c'est un chopper, c'est un custom transformé, bon.
C'est avec les pieds en avant.
Oui.
Pour moi, c'est ça un custom. Alors là, c'est pas dans ce sens-là, custom. C'est dans le sens où tu peux le customiser. C'est-à-dire mettre des options, le personnaliser en fait. Donc tu as toute une gamme d'options. C'est pour ça que du coup la moto, la R12 est vendue. Il y a juste un réservoir, une selle monoplace, hein, et puis c'est tout quoi. De façon à que tu puisses toi-même la personnaliser. Hein. Ils te le vendent quand même ça 15 000 boules. Hein, les mecs, ils emmerdent pas. Hein. Alors bon, le moteur est sympa quand même. Ça, il fait 95 chevaux. Pour la petite anecdote, c'est le 1200 qui était sur la GS. De 2006, D'accord. Ouais, refroidi par air et huile. Bon, bien sûr, ils ont dû l'adapter pour le modifier pour l'adapter aux normes Euro 5, bien entendu. Mais bon, le moteur, il est en stock depuis longtemps, il est bien amorti. Hein. Et l'R12 est une famille, donc il y a l'R12 de base, et après, tu as la R12 90.
Ouais.
Là, ils ont.
Moi, j'adorais.
Elle est belle. Hein. Ouais. Ils ont boosté un peu là le moteur. Il passe à les 110 chevaux. Et c'est surtout le couple qui est accessible beaucoup plus bas, à 6500 tours au lieu de 9000 pour la R12. Et donc là, c'est en termes de confort de conduite, pour enrouler sur le gras du couple. Là, ça commence à causer.
C'est à la 90. C'est à la 90 qui a référence par rapport à l'évolution de la R12.
C'est quoi ? J'ai pas compris.
Par rapport à l'évolution de la R12, se réfère à la 90.
Oui, oui. De toute façon, la R12 est une enfant de la 90, en fait. Ils ont arrêté la 90 pour sortir la R12.
La 90, pour moi, c'était plutôt du roadster.
Oui.
Alors, effectivement, la 90 était un roadster dans le sens... D'ailleurs, tu avais une position un peu particulière parce que tu avais des commandes un petit peu reculées avec un guidon super large. Et donc, tu étais un peu comme ça, quoi, tu vois, sur la moto. Alors que là, c'est un cruiser pour cruiser. Et donc, tu as une position droite avec des commandes médianes et un guidon légèrement relevé de façon à être plus confortable aussi, effectivement, et aller plus basse quand même que la 90. Mmh. Et enfin, dans cette famille R12, va arriver en 2025 la R12S, S comme sport, qui est magnifique et qui s'inspire de la BM des 90S, tu sais, la première BM qui était un peu sport. Il y avait deux modèles, il était en noir et en orange.
Orange, oui.
Avec un dégradé.
À l'époque, ça remontait, oui.
Magnifique.
Ça remonte. Oui.
Magnifique, voilà. Donc, il s'inspire de la orange. D'ailleurs, la moto est orange avec orange et blanc. Ils y ont mis un tête de fourche.
C'était les premières sportives, entre guillemets, qui sortaient BM, d'ailleurs.
Tout à fait. Ouais. Ils marchaient bien.
Oui, ils marchaient bien. Tout à fait. Ouais. Ici aussi.
Et donc, ils te proposent ça avec des roues à rayons chromés. Elle est très belle, cette moto. Hein. Il y a aussi des parties en aluminium sur le réservoir, en aluminium brossé. Enfin, tu vois, vraiment, mais bon, elle est à 23 000 euros sans option. Quand même, quoi. Quand même, c'est sympa, quoi. Sinon, la R12 avec la selle biplace, parce que c'est en option. Hein. Là, c'est en selle monoplace. Le kit cale-pied et selle biplace, c'est vrai que là, ça renforce le côté custom. Tu sais, je disais tout à l'heure, la selle à deux étages et tout, ça ressemble beaucoup plus, quoi. En noir, en plus, je trouve qu'elle est, c'est assez sympa quand même. C'est assez joli. Et le modèle de Julie Wood, d'après ce qu'on peut voir dans la presse, ça sera donc, elle aura la finition pro avec le pack confort. Alors c'est quoi ? Alors t'as un système pour démarrage facile en côte. Donc ça c'est bien pour les nanas, ça qu'ils ont prévu ça quand même. T'as besoin de... Tu me diras, chez nous on s'en fout, il n'y a pas de côte. Mais bon,
elle
voilà,
est
quoi.
Légère aussi si on veut voir le critère.
Elle est légère, elle fait 227 kilos, t'appelles ça léger toi ? Vas-y,
t'essaieras
de la bouger dans ton garage, tu verras si c'est si facile que ça.
On va dire qu'elle est quand même maniable, ça va. Bon,
quand tu roules, mais quand tu vas devoir la pousser, tu verras que si 227 kilos c'est lourd. C'est pas...
Bah oui, j'ai déjà essayé. Ça
c'est pas une moto. Elle fait partie des motos du poids des motos classiques. Hein. Actuellement, on tourne autour de 200 kilos, 220 kilos.
Oui.
Là, ouais. Après, quand
c'est
tu veux les en dessous, c'est autre chose.
Alors après, avec ton pack confort, t'as un shifter. Un shifter, c'est pour passer les vitesses sans embrayer. Ben, je veux bien, mais sur un cruiser, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi, franchement, hein ? Ensuite, tu as des poignées chauffantes. Bah, c'est sûr que c'est le genre de moto qui va rouler l'hiver. Tu as un régulateur de vitesse pour rouler à 80 sur les nationales. Ben non, mais je suis en train de... Voilà. Et tu as un capteur de pression des pneus. D'accord, ok.
Ça, c'est...
Et c'est vendu combien, ça, ce truc-là ?
Ben écoute, là, j'ai pas le prix.
Ah. Dans les 20 000 boules, c'est ça ?
Oui. Ouais.
Non, mais n'empêche que la peinture... Ah oui, j'oublie, il y aura aussi un contour. Il y aura aussi un contour en plus.
Je pense que c'est une très jolie moto.
Ah, j'ai fait l'avocat du diable. Non, mais c'est vrai que sur les photos, en tout cas, elle est belle et je pense qu'en vrai, elle rendra beaucoup mieux encore. Et donc, tu disais que le préparateur qui avait donc dessiné, fait un croquis de la moto avant de la réaliser, avait fourni son croquis au dessinateur de la bande dessinée pour qu'il puisse effectivement s'en inspirer et avoir exactement la même moto dans la bande dessinée que la moto en vrai qu'on va pouvoir trouver sur les stands. Ah bah ouais, c'est super bien. On va passer un petit morceau de musique et puis après on va notamment retrouver notre ami lecteur motard. Vous êtes bien sur Radio Campus, Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches. Et nous retrouvons tout de suite au téléphone Alison Aigrin,
c'est ça.
Pilote et journaliste, surnommée Lily.
Exactement. Salut à toute l'équipe.
Salut. Donc, je suis avec Papate. Hein,
Bonjour, Alison. Nous avions eu le plaisir de t'accueillir à l'antenne à la sortie de ton excellent livre « Talons et guidons ».
Moi,
je continue à dire un ouvrage intelligent et terriblement bien fait.
Donc, bah merci.
On a eu la belle surprise de voir que tu étais encore à l'écriture, en particulier pour un magazine que moi j'adore aussi, c'est Moto Heroes, et que tu allais reprendre une chronique.
Alors moi, en fait, sur Moto Heroes, j'ai ce qu'on appelle le Girl Corner. Donc, dans chaque magazine, j'ai le plaisir de partager un portrait féminin que j'apprécie pour diverses raisons. Voilà, c'est des filles qui collent aussi à l'univers Moto Heroes, forcément, parce qu'elles sont mécaniciennes, mais qu'elles vont s'habiller avec un look assez particulier, se maquiller, avoir le vernis bien fait. Soit ce sont des filles qui font du flat track et qui sont mamans et dans la vie très féminine. Soit ce sont des artistes qui ont parcouru tout l'Arizona. Enfin voilà, j'aime bien mettre en avant ce type de portrait. En tout cas, pour le magazine Moto Heroes. Donc oui, c'est pour ça que tu m'as vu ma petite photo dans le magazine.
Et tu les connais, c'est les personnes que tu interviews comme ça? Comment tu les choisis?
Alors, parfois oui, parfois non. C'est-à-dire que ça reste quand même un petit milieu, la moto. Donc, il y a pas mal d'événements dans l'année que j'ai la chance de faire, de tout univers différent. Hein, parce que moi, je fais aussi bien de la piste que du voyage, que de l'enduro, de la moto de route. Mais voilà, au fur et à mesure de mes rencontres, soit j'entends parler de ces filles, soit je les rencontre directement, puis après je les contacte, quoi.
Mais c'est un milieu qui a tendance, heureusement, à grandir, à s'enrichir. Et tu vas pas manquer de matière, j'irais, pour pouvoir honorer cette chronique tous les trimestres.
Oui, c'est sûr. En fait, chaque magazine, je fais plusieurs propositions. Hein. Et puis après, c'est le chef de publication qui a son dernier mot sur le portrait qui veut que je fasse. Mais à chaque fois, j'ai plein de petits noms. Quoi. J'en ai pas qu'un seul. Donc c'est vrai que j'ai toujours plein d'idées, plein de projets pour essayer de mettre en avant ces femmes dans cet univers.
Et t'es pigiste ou t'as une carte de journaliste? Comment ça marche?
Pas du tout. Moi, c'est absolument pas mon métier de base. Je ne suis pas journaliste, j'ai aucune carte de presse. D'ailleurs, je me revendique pas du tout comme journaliste. Hein. Mais voilà, en fait, moi, ce que j'aime par contre, c'est l'écriture. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été littéraire, même dans mes études. Donc, en fait, moi, j'ai commencé ce qu'on a appelé à l'époque, il y a une dizaine d'années, les blogs. Hein. Moi, voilà, j'ai commencé à être dans cet univers-là de la moto sur les réseaux, plutôt pour le côté écriture d'un blog et raconter ma petite vie, puis au fur et à mesure, celle des autres. Voilà, mais on m'a proposé.
C'est vrai que tu as déjà un certain âge, hein, parce que blog, c'est des trucs de vieux déjà, non?
Oui, bah moi je vais sur 33 ans, tu vois, donc Talons et guidons, ça fait 10 ans cette année, voilà.
Mais je sais, oui, non, mais je plaisante, je rigole, je rigole.
Je pense que... C'est bien. Écoute, j'ai avec moi le livre d'Alison, ouais. Je vais te le donner.
D'accord, je te promets de lire. Pouvoir,
voilà,
et sais-tu qu'Alison est diplômée d'une école de commerce?
Oui, mais en l'occurrence, Alison a énormément de qualités, ça c'est évident, parce que si on suit un peu ta trajectoire, Alison, effectivement, je crois que tu es dans le moule c'est pas un moule, mais bon, le moule des femmes qui actuellement s'affirment de plus en plus, c'est-à-dire avec beaucoup de naturel, un plaisir à partager, à communiquer. Et à dire que on peut oser se lancer et il y a nos limites en quelque sorte.
Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est plein de femmes à aussi être entrepreneuses. Je ne sais pas si tu voulais dire, mais dans le milieu de la moto.
Et
voilà, aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de sortir un livre, mais j'ai aussi à mon actif une marque que j'ai lancée il y a 4 ans. Et qui est Ride Trippers, puisque j'ai créé, je vous l'avais aussi présenté, j'avais créé le premier et unique jeu apéro dédié à la moto il y a 3 ans. Et puis là, début d'année, est arrivée mon édition numéro 2, que j'ai eu le plaisir de faire en collaboration avec Triumph cette fois-ci. Et voilà, vous n'êtes pas à l'abri de retrouver plein d'autres marques au fur et à mesure, puisque c'est mon but en fait, hein, d'aller vraiment chercher les marques moto et à chaque fois de faire des éditions avec elles pour pouvoir proposer vraiment le maximum de produits et surtout au goût de tout le monde. Voilà.
Oui, donc il y a une dynamique qui est quand même très positive et réjouissante. Dans tout ce que tu fais, tu vois tout le champ des possibles à développer. Et que ce soit au niveau sportif, au niveau entrepreneurial, je dirais. Et pour revenir à cet article que tu as écrit, effectivement, là aussi, c'est quand même le portrait d'une fille d'exception. Et ça donne des exemples de réussite tout à fait possible dans le milieu de la moto pour les femmes.
Oui, c'est vrai, les femmes, j'en croise de plus en plus tous les jours qui se lancent dans leurs projets, que ce soit un projet vraiment tourné vers une performance ou un projet qui soit de lancement en création d'une société. Et je parle du milieu moto, bien évidemment, mais moi, je suis issue d'une carrière automobile, donc je retrouve aussi la même chose dans l'automobile. Voilà, les femmes sont de plus en plus encouragées aussi à se lancer, s'encouragent entre elles, se parlent, et tout ça donne un élan plutôt positif au milieu. Et moi, j'ai vu le gap en 10 années déjà. C'est clair et net que rien que sur les circuits et sur les paddocks, on est de plus en plus nombreuses. Dans les compétitions, c'est pareil. Dans le nom des sociétés, c'est pareil. Et donc, et puis au sein des marques aussi, au siège ou dans les équipes, voilà. Donc, c'est très positif tout ça.
Et un très beau modèle aussi pour les petites filles, je dirais, qui seraient curieuses du monde de la moto. Lors d'une de tes interventions, tu disais justement, que ce sport se développe vraiment aussi beaucoup au féminin, il faut pouvoir donner envie aussi aux jeunes enfants de découvrir la moto.
Ah oui, ça c'est sûr. Après, aujourd'hui, il y a plein de moyens de leur faire découvrir la moto. C'est effectivement la moto par elle-même, mais c'est aussi le fait qu'elle soit plus présente, je pense, dans les médias, dans les bouquins, dans les livres. Voilà, peut-être un jour, on ne sait pas, je vais essayer de contacter Mattel pour faire une Barbie, une Barbie motarde avec eux. Peut-être que ça marcherait, mais voilà. En tout cas, c'est chouette de voir que c'est plus forcément les poupées pour les petites filles et les camions de pompiers pour les petits garçons. Et tout ça a changé, bien évidemment, qu'on voit l'engouement de plus en plus chez les petites filles dans cet univers.
Ouais, je pense qu'elles auraient tout à fait, sa place, cette Barbie.
D'accord.
Parce que les petites filles, effectivement, commencent à regarder aussi. C'est plus seulement quand elles ont un papa motard, mais aussi une maman motarde, et puis de voir des filles qui sont des vrais exemples aussi de volonté de faire de la route, de volonté d'apprendre. Parce que dans le portrait, donc, on va dire, c'est de Agathe, hein, de Motorcycle Factory.
Oui.
Voilà. J'ai trouvé que son itinéraire aussi était exemplaire. Tu parlais d'études, mais on peut faire des études et puis se reconvertir dans un autre domaine où on va.
Ah bah ça sera d'autant plus vrai aujourd'hui. On dit qu'on va avoir trois métiers durant sa vie. Tu vois,
donc. Et si on peut avoir un métier de cœur et de passion, alors là, on décroche le gros lot. Et donc, il n'y a plus de métiers qui sont interdits, je dirais, que ce soit au niveau de la mécanique, de la customisation. Tout est possible. Et Agathe en est vraiment un bel exemple.
Oui, c'est vrai, Agathe, c'est une fille, moi c'est une amie, hein, même personnellement, donc c'est une fille que j'admire depuis très longtemps, sur le plan perso comme pro, et c'est une femme qui est partie d'un milieu un peu comme le mien à la base, c'est-à-dire qu'elle, elle était vraiment dans le graphisme et plutôt dans les boîtes, comité marketing, pardon, etc. Et puis un jour, elle en a eu marre, et puis en fait, elle a eu envie de changer de vie, sauf qu'elle n'a pas eu juste l'envie, elle a été au bout de son projet, elle l'a concrétisé, elle s'est reconvertie, elle a refait des études en tant que mécanicienne, ce qui n'était pas évident en tant que femme, et en plus, à son âge, voilà, elle n'avait pas 16 ans, quoi, c'est ce que je veux dire, et puis elle a réussi, et aujourd'hui, en plus, elle arrive à lier son métier de reconversion avec une passion du graphisme qu'elle a gardée, puisqu'elle fait de la custo. Tout ça dans son garage participatif, donc c'est chouette.
C'est innovateur et en même temps, ça correspond vraiment à une attente d'une clientèle qui est passionnée de moto. Et disons qu'on peut faire sienne sa devise, hein, oser se lancer dans des projets que les autres estiment irréalisables, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Et ce sont les filles qui revendiquent ça et qui ne...
C'est normal, ça fait tellement longtemps qu'elles se battent pour avoir l'indépendance et l'égalité.
Oui, ça c'est vrai. Et pour la petite histoire, quand je vois ce qui s'est passé avec les manifestations il y a quelques jours de contre les lois Simone Veil, ça me gratte un peu la gorge, mais bon, ça c'est voilà.
Heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis. Hein.
C'est ça, exactement.
Juste pour terminer, j'ai vu aussi que tu écris sur le site de Moto Blues Enjoy the Ride.
Exactement.
Tu fais
ça
encore?
Fait 3 ans ouais. Maintenant. Ouais, ça fait 3 ans maintenant que je suis ambassadrice pour la marque. Et voilà, le but avec cette marque, c'est vraiment d'avancer. Donc, on a eu un vrai projet ensemble, notamment une marque blanche qui s'appelle DXR. Et en fait, je fais tous les essais de prototypes au maximum pour eux, en tout cas proto ou quand ça vient de sortir. L'idée, c'est de pouvoir tester le matériel, de pouvoir donner mon retour. Si ça ne va pas, généralement, ils jouent le jeu de modifier. Et voilà, et donc du coup, bah forcément, j'écris sur ce blog pour décrire tous mes articles, tous les essais produits que je fais, mais également aussi des articles un peu plus larges sur des conseils, des événements, des actus, voilà.
Et tu roules sur quoi pour essayer ces équipements ?
Bon, surtout, alors moi déjà personnellement j'ai 3 motos, donc et puis 3 styles complètement différents. J'ai une sportive pour la piste, une Himalayan pour l'enduro et une street. Triple, donc petit roadster pour la route. Mais à côté, j'ai la chance de travailler avec pas mal de marques et un concessionnaire à côté de chez moi. Donc l'idée, c'est vraiment quand je fais un test produit, en plus, j'essaie de prendre une moto qui est adaptée pour aller vraiment faire la discipline ou le test dans toute son intégralité.
Alors, une richesse à découvrir sur les réseaux sociaux, sur les différents sites. Retrouvez aussi la bonne interview sur YouTube. Et donc, on invite tous nos auditeurs à te suivre, Alison.
Eh ben, merci.
Bonne route à toi et merci pour ta participation.
Merci à vous et au plaisir de revenir une prochaine fois.
Ah oui,
merci,
on t'attend.
Ciao.
Allez, bonne journée.
Vous êtes bien sur Radio Campus. Sympa quand même, hein, cette interview, ce témoignage. Alison est formidable.
Ah oui, carrément formidable.
Elle est formidable. Qui est-ce qui est formidable aussi? Bah, c'est notre ami lecteur, Yves. Il est formidable, Yves.
C'est gentil, hein, c'est gentil.
Et bon, donc tu nous parles de la BD Brel de comptoir.
Exactement. Non, pas Brel de comptoir. Bref de comptoir, ça existe. Les Brels de la rédac.
Les Brels de la rédac. Excusez-moi, je m'emballe.
Ouais, tu sais ce que c'est une Brel? C'est une moto.
Ouais, ouais, bah, une moto qui avance pas, ouais.
Une moto qui avance pas.
Une chinoise.
Une Deauville.
Oh. Ouais, parce que dedans, il y a plusieurs fois, ils crament la Deauville. Ouais. Ils aiment pas la Deauville.
Oui, d'accord.
Dans la bande dessinée. Ils aiment pas les Deauville, ils aiment pas les Guzzi, apparemment. Ils trouvent que c'est tape-cul. Voilà.
D'accord.
Ils aiment pas le contrôle technique non plus.
Ouais, ça, c'est normal, nous non plus, on aime
pas. Ils aiment pas trop les motos électriques.
Ouais, nous non plus.
Donc, bref, c'est une bande dessinée actuelle.
Voilà.
C'est édité par Casa Édition. Et les gens qui l'ont fait, ils sont pas des. Ils dessinent déjà en moto. Donc, du coup, je vais pouvoir vous citer quelques BD aussi après, vu que j'ai entendu notre ami, notre motard en or, qui disait qu'il y avait de moins en moins de BD. Mais non, il y a des BD qui sortent, mais bon, après, il faut aller les chercher. Et ça ne fait pas encore de grandes séries ou des choses comme ça. Et c'est difficile à percer aussi. Donc, c'est Casa Moto Journal Édition. Donc, les gens qui éditent Moto Journal, dont j'ai déjà parlé par le passé.
En fin de Moto Journal, il y avait une page pendant un bon moment.
Voilà. Et donc, le dessinateur, c'est Fred Coalo. Donc, il a déjà pas mal de dessins de BD. La Fine Équipe, aussi Les Bolins. Mais aussi en moto, et ben, il a fait aussi une BD qui s'appelle le Triumph Rider Club, qui raconte un petit peu. Donc, tu le connais peut-être, ce livre-là. Donc, ça se passe dans les années 60. C'est un peu inspiré du Ace Café, des choses comme ça, un petit peu. Alexandre Huet qui fait les scénarios. Mais là aussi, c'est pas un nouveau dans la BD moto. Il a fait la poignée dans le coin. Et il a fait aussi Rossi Addict, les carnets GP. Et puis donc, il a fait aussi. Bon, c'est quelqu'un qui écrit sur la moto, qui a fait la saison GP 2020 aussi. Donc, quelqu'un de la maison de Casa. Et puis, Yann Marion qui aide aussi au scénario. Et là, c'est un essayiste moto. On peut voir c'est un acteur aussi. Essayiste moto et qui fait aussi de la chaîne YouTube un petit peu, donc on peut le voir un petit peu sur YouTube, des choses comme ça. C'est aussi quelqu'un qui est vraiment un addict de la moto aussi, quelque part. Donc c'est une BD case édition, 14,95 €, et c'est un peu, ça change un petit peu, ça raconte l'histoire d'un duo. Un duo de journalistes dans une édition moto. Et ça commence comme ça un petit peu. C'est notre ami Lucas, qui est jeune journaliste stagiaire, donc qui rentre dans une comme stagiaire à Bécane Mag. Bon, pas copier les titres, hein, mais enfin, bon, on va pas se tromper. Voilà. Et puis la responsable de rédaction, bah c'est une femme.
Ah bah voilà, ça fait du bien. Évolue, ah bah, bah ça fait du bien.
Bon, elle est habillée un peu en rose, hein, mais c'est une femme. Ah,
personne n'est parfait.
Voilà. Elle aura des petits ennuis avec ça d'ailleurs. Et donc elle cherche un coach et bien elle trouve un coach comme ça un peu et quelqu'un qui se fait gruger, c'est Patrick, hein, l'un des piliers de la rédaction. Et là c'est le motard à l'ancien, enfin c'est aussi le passionné de moto et on les voit dans le bureau de rédaction. Donc comme on dit là-dedans, hein, donc tu vas découvrir qu'un journaliste moto c'est aussi productif qu'un chat d'appartement, c'est-à-dire que bon ils sont plus branchés la moto que d'écrire quoi. Oui. Ils cherchent toujours les bonnes occasions de se taper la cloche ou bien d'essayer les plus belles motos du monde et des fois ils se font peut-être un peu avoir aussi hein, aux entournures. Hein, donc, et puis bon, il y a des petites choses aussi qui sont un peu truquées. Hein, donc, ils pensent aller faire la belle couverture de la saison d'été sur la Côte d'Azur, mais non, on va faire ça avec Photoshop et puis les déguiser. Et pour essayer les combinaisons, bah, on commence à les arroser comme ça. Ils sont désignés d'office. Bon, il y a des petites choses comme ça. C'est très humoristique. Ça prend toutes la problématique moto du moment. Ce sont des histoires courtes, une ou deux pages, quoi. Et il y a deux, trois histoires sur le contrôle technique, vraiment, qui font rigoler Luck à côté, qui sont vraiment pas mal. Il y a quelques histoires sur la moto électrique, et notamment la moto électrique et tout l'approche de la moto écolo électrique. Et donc, on peut voir la tête de notre journaliste qui pense, voilà, essayer une nouvelle Hornet, et puis toute la brochette de journalistes qui arrivent avec les souvenirs des anciennes Hornet, qui vont dire, on va s'éclater sur la nouvelle Hornet, et puis en même temps, c'est bien, on va pouvoir se taper la cloche, on va voir. Et puis,
du hamburger.
Voilà, des hamburgers, des choses comme ça, mais non.
Et de la bière.
Ils ont du vegan, ils n'ont pas.
Du smoffé.
Ils n'ont rien du tout.
Du smoffé au concombre.
C'est ça, exactement. Et à la fin, notre pauvre Patrick, il fait une crise d'apoplexie parce que voilà, on lui montre une moto électrique. Alors là, il tombe et puis il se fait hospitaliser, le pauvre. Donc, voilà, il n'en peut plus. Hein. Ou bien la scène de l'enterrement. Voilà, ils ont un copain qui est décédé et c'est la scène de l'enterrement. Il y en a qui dit hey, regarde mon téléphone, des nouvelles. Et puis, tu pourrais te taire quand même, c'est un copain qui est bon, tu pourrais te taire, il regarde le téléphone et puis il commence à crier ouais, youpi, tout ça. Oui, c'est la fin du contrôle technique.
Le contrôle technique est enterré. Il crie ça
à mort dans son cercueil qui dit je peux partir tranquille.
Non, c'est bien vu, il y a beaucoup d'humour, je trouve.
Il y a beaucoup d'humour.
C'est sympa. On voit que ce sont des motards journalistes qui ont écrit ça, quoi. C'est vraiment de l'intérieur. Voilà.
Donc, et après, ça fait pénétrer un petit peu, ça désacralise le journalisme, mais c'est aussi des histoires un peu drôles avec beaucoup d'humour. Donc, la position de la fin, la rédac chef, c'est une journaliste, mais quand elle fait ses essais moto, attention, hein, il faut la suivre, quoi, il faut arriver à la suivre. Et quand elle décide d'emmener toute la rédaction voir le bol d'or en young timer, ça donne l'occasion, sur deux belles pages, de voir tous les défauts des young timers, des motos anciennes qu'on a pu avoir dans le temps. Et il n'y en a qu'une qui arrive à la fin, je ne dirai pas laquelle. Ils arrivent tous dans un remorque, avec tous dans la voiture. Et voilà. Donc, et là, on apprend que c'est la fin du rose aussi pour les motardes. Voilà. Parce que quand la rédac chef décide de faire une polémique pour promouvoir le rose dans une marque de vêtements de moto de femmes, elle se retrouve avec toutes les motardes qui bloquent la rédaction et qui font un sitting devant le bureau et qui protestent complètement pour dire non, arrêtez.
Arrêtez le rose. Arrêtez le rose. Donc ça, c'est les brels de la rédac. Hein,
Voilà, exactement, les brels de Raïdac. Et bon, on leur souhaite bon vent et d'avoir aussi d'autres numéros.
Ok, merci, j'entends, c'est le générique, c'est la fin de l'émission. Merci Papat pour cette émission féminine engagée, je pourrais dire, hein, avec des interviews intéressantes et des témoignages intéressants. Merci Balou de ton intervention.
Il n'y a pas de quoi, j'ai des mots aussi intéressés.
Voilà, merci Yves d'avoir apporté ta culture.
C'était super intéressant justement dans le thème, quoi. Ça tombait vraiment bien.
Voilà, et puis je vais dire merci à Laurent pour sa programmation musicale de qualité. Et on vous dit à dimanche prochain. Hein. Allez, au revoir.
Allez, au revoir.
Au revoir les amis, okay. Au revoir.